Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon, Nicolas Sendé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Élise Le. Nouvelle série donc consacrée à l'Afrique cette semaine, alors que de nombreuses élections approchent et que la transition politique reste un défi majeur pour le continent. Mardi, nous nous pencherons sur les élections en Côte d'Ivoire qui se dérouleront le mois prochain et pour lesquelles les inquiétudes sont grandes dans ce pays qui a connu des crises post-électorales majeures. Mercredi, on évoquera les perspectives de scrutin à l'épreuve de l'insécurité depuis la Libye jusqu'à Ouagadougou et puis on regardera comment l'Église descend dans le paysage politique du côté de la RDC et du Burundi. Mais pour commencer, c'est l'armée qui va nous occuper et la manière dont elle s'impose pour chapeauter des processus de transition, c'est ce qu'on voit en ce moment du côté du Mali.
Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics.
On s'est battu pendant un bon moment pour que ce monsieur quitte le pouvoir. C'est nous qui l'avons donné le pouvoir et on a réclamé le pouvoir.
On veut la démocratie, le pluralisme. Le peuple malien est un peuple souverain.
Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la constitution, la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je jure, je le jure.
Vendredi dernier, le 25 septembre, Bindo prenait ses fonctions à la tête du gouvernement de transition au Mali. Ancien officier à la retraite, cet homme a donc la charge de piloter la transition après le coup d'État du 18 août dernier, qui a débarqué l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta suite à la mobilisation populaire conduite par le mouvement du 5 juin. Si dans un premier temps, ce renversement du pouvoir par les militaires était plutôt bien accueilli par la population malienne, aujourd'hui, leur mainmise sur le processus de transition inquiète et donne le sentiment que la contestation a été un peu instrumentalisée. Alors que reste-t-il des engagements de la junte d'organiser cette transition civile? Qu'attendre du tandem entre le président et le vice-président Assimi Goïta, un jeune militaire lui à l'origine du coup d'État, désormais à la tête du Comité national pour le salut du peuple? Le pays parviendra-t-il à rassembler les conditions d'une future élection libre et transparente? Et quel rôle pourrait jouer notamment l'imam Diko, dont on parle beaucoup, un religieux très actif dans les mobilisations populaires ces derniers mois? Un retour à la stabilité est-il possible alors que les groupes rebelles menacent toujours malgré la présence de l'armée française à travers l'opération Barkhane? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Niagale Bagayoko. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network, qui est une organisation panafricaine qui rassemble des spécialistes de la question de la réforme des systèmes de sécurité. Ça tombe bien pour le sujet qu'on va évoquer ce matin. Avec nous également, alors il est peut-être pas encore arrivé, c'est Boubacar Haïdara. On me fait signe, il est pas encore là, mais il sera là dans quelques instants, je n'en doute pas, qui est chercheur au laboratoire des Afriques dans le monde, le LAM de Sciences Po Bordeaux. On va le retrouver dans quelques instants. On va commencer ensemble, Niagale Bagayoko. Je le disais, la semaine dernière, il y a donc le Comité national pour le salut du peuple qui a désigné un nouveau président, donc à la tête de cette transition, Bado. Il s'agit d'un militaire à la retraite, donc officiellement un civil. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'avait demandé la CDAO. C'est un bon choix, Niagale Bagayoko. Il a le bon profil pour mener la transition.
Alors, le président Bandao apparaît comme une personnalité très respectée et connue pour son intégrité. Même s'il n'est passé que brièvement à la tête du ministère de la Défense, il s'y est illustré notamment par des prises de position assez fermes, en particulier sur la question de la réintégration d'anciens rebelles qui avaient d'ores et déjà déserté, à laquelle il s'est opposé. C'est par ailleurs une personnalité qui a une une grande carrière, y compris dans l'armée de l'air dont il est issu. Donc, en effet, c'est quelqu'un dont la prestance qu'on a pu constater lors de la cérémonie d'investiture suscite beaucoup d'attentes.
Oui, il a l'air d'avoir du charisme. En tout cas, effectivement, c'est les images que nous avons vues vendredi qui semblent laisser apparaître. On a Boubacar Haïdara avec nous. Ça y est, on devrait l'entendre. Bonjour Boubacar Haïdara.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec moi. Je faisais réagir Niagale Bagayoko à propos de cette désignation maintenant de ce président de la transition. Jeune Afrique dressait un portrait de lui il y a quelques jours. Il parlait d'un homme à la réputation d'homme intègre et intransigeant. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous, cette nomination, Boubacar Haïdara?
Bon, de toute façon, globalement, ici au Mali, la désignation de ce président de la transition n'a pas eu d'opposition, certainement, comme je l'entendais tout à l'heure, certainement parce que il a su construire une réputation d'homme intègre. On nous disait aussi qu'en 2014, il avait démissionné de son poste de ministre de la Défense pour une divergence de vision avec le président de la République. Je crois que rien que cela, c'est assez.
C'était quoi cette divergence?
Pour être solide. Lié certainement. J'ai entendu dire que c'était l'application de l'accord de paix. Ça concernait une décision concernant l'application de paix. En tout état de cause, ce que je veux souligner, il importe peu la raison. Ce qui est très important, c'est le fait de démissionner de son poste pour divergence de vision ici au Mali. Ça prouve qu'on a une certaine conviction, parce que c'est assez rare ici au Mali de voir des gens démissionner. C'est d'ailleurs tout ce qui est décrié, hein, c'est ce qui est décrié, où les gens n'ont pas de conviction, chacun court derrière son poste, et finalement l'intérêt général est relégué au dernier plan.
Ouais, la démission est rare, et c'est ça qui lui donne aussi finalement cette stature et cette qualité d'homme intègre. Par ailleurs, il a démissionné au moins deux fois, parce qu'il a aussi démissionné avec un certain fracas aussi à l'époque de son poste d'aide de camp de l'ancien président Moussa Traoré, qui est récemment décédé. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de revenir sur sa figure, et c'est aussi ça qui lui vaut donc cette réputation. Niagale Bagayoko, il y a une autre nomination qui a eu lieu ce week-end, qui est celui du Premier ministre par intérim. Alors lui, c'est donc Mokhtar Ouane, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, qui a eu par ailleurs aussi une carrière à l'ONU, parce que c'était l'ambassadeur du Mali à l'ONU pendant quelques années. C'est un bon choix, ça?
Alors, ce n'est pas à moi de
dire. Quand je dis c'est un bon choix, c'est pour la transition. Dans la perspective de la transition.
Je pense que ce qui est très important, c'est de regarder la pratique qui sera faite à partir des arrangements institutionnels qui ont été trouvés. Vous parliez de tandem en introduction. Moi, je parlerai aujourd'hui de triumvirat. C'est-à-dire que nous avons un président de la transition, un vice-président de la transition chargé des questions de défense et de sécurité, et désormais un premier ministre. La question de la façon dont les uns et les autres vont se positionner, y compris une fois que le gouvernement aura été nommé, puisque dans le gouvernement il y aura sans doute et un ministre de la Défense et un ministre de la Sécurité, donc la question de leur relation avec le vice-président se posera particulièrement, est extrêmement importante. À mon sens, Mokhtar Ouane est un très fin diplomate, pour l'avoir côtoyé. Il connaît non seulement très bien sûr, son pays et la diplomatie, mais il connaît très bien aussi les organisations multilatérales. Il était jusqu'à présent en charge de la délégation à la paix et à la sécurité de l'UEMOA, donc l'autre organisation sous-régionale, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, dont le rôle est très important, puisque je rappelle que lorsque la CDEAO a annoncé qu'elle allait investir $1 milliard dans la lutte contre le terrorisme, l'UEMOA avait également fait valoir qu'elle mettrait aussi de l'argent sur la table. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les mécanismes de gestion des conflits également, et qui qui peut avoir aussi une voix très importante, notamment vis-à-vis de la communauté internationale.
Jeu à 3, Boubacar Haïdara, ou en fait jeu à 4. Peut-être faut-il aussi introduire une autre figure, qui est celle du colonel Assimi Goïta, qui est à la tête du Comité National pour le Salut du Peuple. On l'oublie un petit peu, mais il va avoir lui aussi un rôle dans la transition. Boubacar Haïdara.
Oui, un rôle, tout à fait.
C'est le vice-président, en fait, voilà.
Oui, c'est le vice-président.
Ouais, donc c'est bien jeu à 3, pardon.
Voilà, vous avez parlé de la nomination du président et du premier ministre de la transition. En soi, les deux nominations n'ont pas souffert de contestation, voilà. Mais le problème que moi je voudrais soulever dès ici, c'est la collaboration qui va être mise en place entre ces trois. Et je crois qu'on a déjà un aperçu qui n'est pas réconfortant. Alors, il faut savoir que la CEDEAO avait exigé un certain nombre de points qui étaient conditionnés à la levée des sanctions. Et pour le moment, parmi ces 6 points fondamentaux, il n'y a que 2 qui ont été respectés par le CNSP. C'est-à-dire la nomination d'un président de transition, la nomination d'un premier ministre civil de transition. Mais le CNSP n'est toujours pas dissous. Et la CEDEAO exigeait aussi l'abrogation de l'acte fondamental. Le CNSP continue encore de faire des nominations sur la base d'un acte fondamental qui prime sur la constitution malienne. Hein? Le CNSP n'a toujours pas publié la version officielle de la charte officielle dans le journal officiel. Et le CNSP n'a toujours pas tenu compte de l'exigence de la CEDEAO qui voudrait qu'on précise très clairement dans la charte de transition que le vice-président qui est désormais Assimi Goïta ne puisse pas remplacer le président de la transition en cas d'empêchement. Ce n'est toujours pas le cas. Donc ces deux personnalités ont été nommées, mais rien n'est encore réglé. Et je crois que nous nous dirigeons vers un scénario à la Sanogo, quoi, en 2012, où il y a un président et un premier ministre, mais tous deux ont un autre président qui demeure un militaire. Voilà. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé quand je vous disais qu'on a déjà un aperçu. Il y a un décret de nomination du CNSP qui a été publié hier partout à Bamako, mais qui était daté du 24, qui nommait le chef d'état-major particulier du président de la transition. Le 24, daté du 24, et le président est mis
donc
en place.
Donc avant même qu'on ait désigné le président, en réalité, le président de la transition. On avait déjà choisi.
Et le document est officiel, hein. C'est un document officiel qui nomme une personnalité importante auprès du président qui est daté du 24. Donc voilà un peu une sorte de relation. Si ce qu'on dit de Bandao est correct, qu'il se laisse pas marcher sur les pieds, alors je pense que nous n'allons pas tarder à assister
à des
clashs présidentiels.
Voire à sa démission.
Non, peut-être. Ah ouais, pourquoi pas. Si ce qui est dit de lui est exact, alors là, à moins que les sanctions de la CEDEAO parviennent à pousser le CNSP vraiment à se retirer, quoi.
Non, je dis ça puisque vous précisiez qu'il avait par 2 fois au moins déjà démissionné. C'était un acte fort. Niagale Bagayoko, est-ce que vous rejoignez Boubacar Haïdara sur cette idée que au fond, derrière ce jeu de nomination, on a quand même une armée qui globalement continue d'avoir la main sur cette transition? Et puis peut-être il faudra revenir aussi, Niagale Bagayoko, sur cette question de la CEDEAO, parce que on l'a dit peut-être un peu dur à l'égard du Mali, en tout cas beaucoup plus dur que à l'égard de pays comme la Côte d'Ivoire ou la Guinée, où là il y a eu peut-être davantage de bienveillance. Est-ce que la CEDEAO a raison de mettre la pression sur le Mali en brandissant la menace des sanctions, ou est-ce qu'il vous semble que là, en tout cas l'effet escompté pourrait ne pas être au rendez-vous, Niagale Bagayoko, sur les 2 points?
Donc, je rejoins tout à fait Boubacar à propos de l'importance des points qu'il a soulevés. C'est-à-dire, on est quand même aujourd'hui dans un cadre constitutionnel extrêmement trouble avec cet acte fondamental qui demeure. En effet, la question de savoir si le vice-président pourra ou pas remplacer le président est centrale. Mais j'ajouterais 2 autres éléments. D'une part, une chose qui est demandée aussi par la CEDEAO de manière très claire, c'est la libération des personnalités civiles et militaires qui ont été arrêtées après le coup de force du 18 juin, qui sont actuellement détenues en dehors de toute procédure pénale. 18 août.
C'est... 18 août, oui. C'est lundi, on relance la machine.
On s'en prend encore avec le général de Gaulle. La question du Conseil national de transition, c'est-à-dire l'organe législatif qui va être mis en place, sera extrêmement importante aussi. Mmh. Et notamment, pour répondre à votre question, celle des militaires qui seront placés en son sein. Puisque... selon la charte actuelle, dans la version qu'on en connaît, il est prévu que des militaires puissent intégrer cet organe législatif de transition. Ce qui est aussi une marque de l'influence de ceux-ci sur le cadre institutionnel actuel. Pour ce qui est de la CDEAO, la difficulté à laquelle se heurte aujourd'hui l'organisation, c'est qu'il existe en son sein différentes légitimités qui, là encore, se réfèrent à des textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement appuient leurs décisions sur le dispositif qui a été mis en place en 1999 et en 2001, donc le cadre de prévention, de gestion et de règlement des conflits d'une part, et d'autre part le protocole sur la bonne gouvernance, qui ont été adoptés dans la foulée des conflits des années 90 et 2000, dans la rivière Mano, au Liberia, Sierra Leone. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le type de conflit multidimensionnel qui est à l'œuvre dans l'espace sahélien dépasse en grande partie les capacités de ces cadres qui ont certainement besoin d'être revus, complétés et élargis, mais renvoie surtout à la légitimité et aux décisions des chefs d'État, et y compris de ceux dont la légitimité, ou en tout cas l'aspiration à concourir pour un troisième mandat est contestée, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée. Mais au sein même de la CDEAO, il est important de mentionner le fait qu'il y a d'autres textes, notamment un texte qui s'appelle Vision 2020, ironiquement, et qui a travaillé en faveur du passage d'une CDEAO des États à une CDEAO des peuples. Et aujourd'hui, au Mali, beaucoup se réfèrent à cette CDEAO des peuples pour dire que c'est de celle-ci qu'ils dépendent et non pas des volontés d'un club d'État, de chefs d'État, dont certains s'attribuent le pouvoir au mépris de toutes les règles qu'ils prônent par ailleurs.
Sauf que c'est pas celle-ci qui prend des sanctions et que c'est pas celle-ci qui fait des déclarations officielles.
Absolument. Et c'est là qu'en effet, il y aura sans doute, à mon avis, à l'issue de cette crise, un besoin de revoir l'ensemble de ces cadres. Parce que quand on parle de la CDEAO des peuples, ça veut dire aussi impliquer d'autres voix. Et on voit très bien que dans le cadre de la crise malienne, d'autres voix se sont fait entendre, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse d'acteurs religieux, ou sur le terrain, le rôle de certaines institutions coutumières. On voit qu'aujourd'hui, la gestion des conflits implique beaucoup d'autres acteurs que les seules sphères exécutives.
Boubacar Haïdara, sur cette question de la CDAO et de la manière dont là, elle joue sur ce conflit malien en particulier, et peut-être de façon plus générale, sur les processus de transition ces dernières années, Boubacar Haïdara.
Alors, je dirais que heureusement que la CDAO est là pour calmer les ardeurs du CNSP. Et puis d'ailleurs, c'est vrai que la CDAO a été beaucoup critiquée ici au Mali, notamment auprès de ceux qui étaient pour une transition militaire, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Mais la CDAO est dans son rôle parce que je crois qu'il ne faut pas laisser les coups d'État prospérer dans cet espace déjà fragile du fait du terrorisme, du fait des faiblesses économiques, etc., etc. Et je crois que si le CNSP parvient à mettre la main sur le pouvoir ici, ça pourra donner des idées ailleurs. Et les chefs d'État de la CDAO, déjà dans des contextes selon les pays qui sont tendus, ils n'ont aucun intérêt à laisser les militaires mettre la main sur le pouvoir ici au Mali. Et puis la CDAO se voit donc opposée à une partie des Maliens qui la traitent de syndicat des chefs d'État. Je comprends bien ces Maliens qui sont pour la transition militaire, qui avaient même créé une organisation qu'ils ont appelée le mouvement du 4 septembre, qui a fait des manifestations à Bamako pour exiger que la transition soit dirigée par les militaires. Mais je dirais quand même que c'est un peu avoir la mémoire courte, quoi. parce que des transitions militaires, un régime militaire, le Mali en a eu pendant 23 ans. Et quand on essaye avec l'expérience des coups d'État un peu en Afrique, quand on regarde, les militaires sont toujours venus au pouvoir dans le but de changer les choses. Effectivement, quand ils viennent, les choses ne sont pas très 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 belles. Effectivement, donc, mais le constat est quoi? Quand ces militaires viennent au pouvoir, est-ce qu'ils ont permis de changer les choses dans le bon sens? Est-ce qu'ils ont fait mieux que les pouvoirs qu'ils ont changés?
Oui, mais Boubacar Haïdara, après tout, on pourrait se demander si des civils feraient mieux. Je vais me faire l'avocat des militaires. Pourquoi leur jeter la pierre? C'est très difficile d'organiser un processus de transition. Pourquoi est-ce qu'ils seraient moins bien placés que d'autres pour assumer cette charge? C'est une vraie question, Boubacar Haïdara.
Non, absolument. Absolument. J'allais continuer en disant cela. Pourquoi ce plébiscite des militaires? Parce que les gens s'attendent à voir, dans un état failli comme le Mali, un état où les acteurs politiques n'ont aucune crédibilité, les gens s'attendent à voir l'esprit militaire, la discipline militaire, la rigueur militaire, les gens s'attendent à voir une transposition de tout ça dans l'organisation des affaires politiques, parce qu'on en a vraiment besoin ici au Mali. Mais est-ce que les militaires sont les mieux placés pour le faire? Parce que les militaires, on les a vus, hein, quand ils viennent au pouvoir pour changer les choses, et après ils s'éternisent au pouvoir, ils ne veulent plus lâcher le pouvoir, et on assiste à l'instauration d'une dictature dans le pays. C'est ça le risque avec les militaires. Donc, je crois que la classe politique globalement au Mali est décrédibilisée. Mais je continue de croire qu'il y a quand même des personnalités. Bah, l'exemple de Bandao, tout le monde a dit qu'il était pas mal, qu'il était bien pour le poste. Voilà, je crois que le rôle du CNSP, c'est ce que la CEDEAO demande, aurait été de ne pas, j'espère qu'ils vont entendre raison, de ne pas interférer dans la gestion de l'État, dans la gestion des affaires politiques. On verra bien si les menaces de sanctions de la CEDEAO parviennent à les faire entendre raison. Mais de toute façon, je crois que sans la CEDEAO, on n'en serait pas là. Le pouvoir aurait déjà été confisqué, mais totalement, par le CNSP. Heureusement que la CEDEAO est là.
Niagale, voilà. Bagayoko, vous vouliez réagir. Et puis moi, il y a une question sur laquelle j'aimerais vous entendre. C'est qu'on voit bien, alors c'est pas seulement le cas au Mali, c'est vrai que c'est quelque chose qui est partagé dans l'ensemble de la région, c'est qu'il y a, c'est vrai, quelque chose d'une légitimité politique des militaires qu'il faut quand même un peu essayer d'expliquer. On a d'un côté des armées nationales qui globalement ne parviennent pas à être à la hauteur du défi sécuritaire, c'est le cas plus que jamais en ce qui concerne le Mali, et en même temps on a des gens qui ont comme ça une légitimité politique qui semble évidente, et y compris, je veux dire, pour l'opinion malienne. Qu'est-ce qui construit la légitimité politique des militaires? Et puis je vais vous laisser réagir, j'ai vu que vous vouliez d'abord réagir. Niagale Bagayoko.
Alors oui, en effet, à propos de la CEDEAO, j'espère que j'ai été claire. J'ai essayé d'analyser en effet la voie étroite qui est la sienne, mais bien sûr, son intervention est absolument indispensable. Et il est notamment important de rappeler le rôle absolument majeur qu'elle a joué dans des dossiers ouest-africains qui font beaucoup moins l'objet d'intérêt de la part de la communauté internationale.
Vous pensez à quoi ?
Qui sont les dossiers bissau-guinéens et gambiens surtout. Hein, la transition en Gambie n'a pu se faire que grâce à l'appui et à l'intervention résolue de la CEDEAO. Il n'en reste pas moins que la CEDEAO est avant tout une organisation interétatique et que son influence dépend aussi des États membres qui la composent. La CEDEAO des années 90 et 2000, où le Nigeria était absolument dominant et prêt à intervenir de manière extrêmement musclée, n'est absolument plus la configuration que l'on connaît aujourd'hui. Au début des années 2000, lorsque la CEDEAO a aussi joué joué un rôle, je rappelle, au début de la crise malienne, en 2012 justement, où elle a réussi à imposer le retrait de la junte de Sanogo. Alassane Ouattara entamait à peine son mandat en 2001, après la crise de 2011, et n'était pas dans la configuration actuelle. Donc ces équilibres politiques sont absolument essentiels à prendre en considération. Mais aujourd'hui, le CNSP est, à mon avis, dans une voie étroite, non seulement grâce à ses pressions de la CDEAO en faveur d'une d'un respect des cadres institutionnels et démocratiques, mais aussi en raison, à mon avis, de la pression des populations qui, aujourd'hui, se sont... quand je dis aujourd'hui, c'est déjà moins vrai, c'est-à-dire en août, se sont réjouis massivement de ce coup de force, mais qui aujourd'hui sont déjà un peu plus nuancés dans leur jugement, comme on peut le voir aussi à travers la lecture de la presse, et qui attendent vraiment, aussi bien les militaires que les civils, sur des dossiers très clairs, à commencer par celui de la transparence dans la gestion de la sécurité elle-même. Car l'un des grands reproches qui a été fait à l'équipe du président Ibeka a été aussi les détournements et l'absence totale de transparence dans les budgets de la défense. Hein. Donc cette question est l'un des tests pour l'équipe actuelle. Pour terminer sur cette question de la légitimité politique des militaires, à mon avis, il faut y voir le fruit de l'histoire. Le Mali est un régime prétorien dès 8 ans après l'indépendance. Il le devient. Et dès Modibo Keïta, à l'époque, il y a eu une grande confusion avec la mise en place de comités de défense populaire qui avaient des liens aussi avec l'appareil sécuritaire. Donc aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas qu'au Mali, on peut le voir aussi au Burkina Faso, l'attitude des populations, voire de certaines portions de la société civile vis-à-vis des militaires, est très ambiguë.
Boubacar Haïdara, sur cette question justement de l'insécurité, Niagalé Bagayoko parlait de cette question de la transparence dans le domaine du financement des questions sécuritaires. De ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il y a à attendre de ce nouveau gouvernement de transition? Et là, il faut introduire un acteur dont on n'a pas encore parlé, qui est la France quand même, parce que on peut se demander si... on a là pour Paris une bonne ou une mauvaise affaire, je mets évidemment des guillemets, dans la sécurisation de la région. Hier soir, Emmanuel Macron est intervenu à la télévision, on l'a pas beaucoup entendu sur le processus de transition au Mali, on l'a entendu sur la Biélorussie, on l'a entendu sur le Liban, mais il ne semble pas que la pression soit considérable pour pousser les militaires maliens à organiser comme il se doit cette transition politique.
Alors, concernant donc le financement de nos armées, et comme Niagalé vient juste de le dire, je crois qu'un des le principal mal de l'ère Ibeka, ça a été le tort qu'il a causé à l'armée. Le premier scandale de corruption qui éclabousse son pouvoir, déjà en 2014, il me semble. C'est un scandale de surfacturation d'équipements militaires à hauteur de 29 milliards. C'est des sommes qui sont immenses ici. Et tout le pouvoir d'Ibeka a été émaillé par ce type de scandale. Et au même moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit des militaires qui sont mal équipés, très mal équipés, qui meurent comme des poulets, quoi, comme on dit ici. Voilà, c'est l'expression ici, hein. Et dont on n'arrive même pas à faire venir les corps à Bamako, et qui ne bénéficient même pas de l'honneur militaire. On les enterre dans des fosses communes, les parents passent plusieurs semaines, plusieurs mois sans savoir qu'en est-il de leurs proches. Voilà l'état dans lequel était l'armée ici au Mali. Quand le CNSP prend le pouvoir d'ailleurs, je pense que qu'est-ce qui est fait? Parce qu'il sait très bien qu'il s'agit d'un sujet très sensible auquel L'opinion est sensible aussi. Qu'est-ce qui fait? On commence à voir des images, des vidéos qui disent, bon voilà, depuis que le CNSP a pris le pouvoir, 700 djihadistes ont été tués par-ci. On nous montre dans des vidéos des centaines de motos de djihadistes qui ont été capturées. On nous dit que, bon, sous Ibeka, les avions de l'armée malienne, les quelques avions qu'ils ont, n'avait pas la possibilité d'aller combattre les djihadistes sans l'autorisation de la France, mais maintenant les militaires peuvent eux-mêmes prendre la décision de le faire. Ils ont aussi joué sur cette corde-là pour s'attirer encore plus de légitimité. Donc il en va de soi que, c'est ce que je dis quand on me demande les chantiers prioritaires de la transition, je crois que l'aspect sécuritaire doit être au cœur de la transition. Et ce qu'on attend d'ailleurs des militaires, le rôle qui selon moi devrait leur être dévolu dans le cadre de la transition, et c'est uniquement que le vice-président Assimi Goïta soit uniquement chargé des questions de défense. Il paraît que c'est un bon militaire qui était à la tête des forces spéciales, le bataillon autonome des forces spéciales de l'armée du Mali, qui semble avoir fait beaucoup de choses, notamment assez variées, qu'on lui confie en tant que militaire des questions chargées de défense.
Oui, d'ailleurs, au sein de l'armée française, visiblement, il a plutôt bonne presse, cet homme-là. En tout cas, on lui reconnaît une certaine efficacité, un certain professionnalisme, si on peut utiliser ce terme quand il s'agit de la chose militaire. Mais en tout cas, du côté de l'armée française, on reconnaît que c'est un homme qualifié, disons.
Oui, tout à fait. Ouais. Et il jouit d'une bonne réputation sur ce plan, ouais, de façon globale ici au Mali.
Alors, je vais peut-être passer la parole à Niagale Bagayoko qui voulait intervenir sur ce plan-là, sur ce point-là.
Alors, bon, c'est très riche, hein, comme d'habitude. Pour réagir sur ce point qui est absolument majeur, je rejoins Boubacar de ce point de vue-là, la question de la gestion transparente dans le secteur de la défense. Il a rappelé effectivement les conditions absolument inacceptables dans lesquelles ont pu être déployés des soldats sans munitions, ou effectivement celles de ces veuves qui ont fait de nombreuses manifestations au cours des mois passés, parce que non seulement elles n'avaient pas revu les dépouilles de leur mari, mais aussi parce qu'elles se retrouvaient dans un dénuement total. Et cela démontre que, vous posez la question des acteurs impliqués, à mon avis l'un des test pour mesurer l'engagement réel des institutions, des acteurs institutionnels actuels, sera la liberté qui sera accordée à des institutions indépendantes, comme par exemple celle du vérificateur général, c'est-à-dire l'équivalent de la Cour des comptes, qui est l'acteur qui a mis sur la place publique les détournements de fonds qui ont été faits dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation militaire. Tout est en ligne, tout est accessible, ce ne sont pas des rapports confidentiels. Les noms des personnes impliquées dans ces trafics sont cités. Donc ça, c'est une première question. D'autre part, vous parlez de la pression militaire de la France. Est-ce que la difficulté aujourd'hui n'est pas la façon dont la France a conçu cette pression militaire? C'est-à-dire que la pression militaire, oui, personne ne dit qu'elle n'est pas indispensable, mais est-elle suffisante? Et surtout, est-ce que le seul renforcement des capacités de combat suffit à renforcer des armées? La question du renforcement des capacités en matière de gouvernance sécuritaire est essentielle. La question de la lutte contre les exactions perpétrées par les forces de défense et de sécurité en matière de droits de l'homme est essentielle aussi.
C'est deux points sur lesquels on a pêché, c'est ça que vous voulez dire, en creux.
Mais, c'est-à-dire, c'est les points qu'on n'a pas suffisamment considérés et qui ont aussi contribué à délégitimer l'intervention internationale dans son ensemble. Donc, effectivement, il est absolument indispensable de les prendre en considération et on voit d'ailleurs que le discours qui tend à dire que la pression militaire et l'élimination totale des groupes armés terroristes commence à évoluer. Certains voix se font entendre pour dire que cette pression militaire visait en réalité à amener à des négociations. Et je pense que c'est intéressant.
On aura sûrement l'occasion de revenir sur ce thème-là. C'est vrai que moi, je m'étais dit aujourd'hui, on va parler du Mali et des militaires. Alors, on va laisser un tout petit peu de côté la question de la présence française qu'on aborde plus souvent. Donc on va rester sur cette perspective-là, mais on va prendre un tout petit peu de champ. Vous parliez tout à l'heure de Moussa Traoré, ancien président malien qui est décédé récemment. On va écouter d'abord une archive de Moussa Traoré. On est en 1977 parce que c'était un militaire, cet homme-là, et c'est le premier à effectuer son coup d'état militaire. On va écouter une archive et ensuite on en reparle.
Nous avons affirmé que nous allions réaliser la réconciliation nationale, procéder au redressement économique et financier, et après l'abolition de toutes les institutions, revenir à une vie politique normale.
Voilà, Moussa Traoré, on est en 1977, qui promet de ramener le pays à une vie politique normale. 1977, alors qu'il est arrivé par un coup d'État en 68. Et puis 1977, c'est aussi l'année de la mort de Modiba Keïta, justement, le premier président malien, mort en 77, dans des conditions un peu obscures. Il avait été jeté en prison, on sait toujours pas exactement dans quelles conditions. Mais il se trouve que Moussa Traoré était parvenu à conserver le pouvoir jusqu'en 1991, date d'une grande révolte estudiantine, qui a d'ailleurs été fortement, brutalement réprimé. Et puis finalement, un autre coup d'État militaire va mettre un terme à son mandat et installer un autre militaire, Amadou Toumani Traoré, qui sera lui président de 2002 à 2012. Il y a certaines personnes, Boubacar Haïdara, et je me tourne vers vous parce que vous êtes en ce moment au Mali, qui considèrent que Traoré a laissé une trace assez indélébile dans l'histoire du pays et que d'une certaine manière, son héritage pèse encore dans l'instabilité du pays, dans l'incapacité, au fond, à faire aboutir cette transition démocratique. Est-ce que vous partagez cette opinion?
Bon, en tout cas, j'ai d'ailleurs un collègue qui me disait, attends, fais attention, tu verras que tout ramène tout le temps à Moussa. C'est ce qu'il disait. Parmi certains noms qui avaient été tantôt cités dans le cadre de la transition, effectivement, tout ramenait d'une manière ou d'une autre à Moussa Traoré. Mmh. Prenons le président, le nouveau président de la transition, son premier ministre. Les deux ont un lien avec Moussa Traoré. Mmh. L'un fut son aide de camp, mmh, et l'autre a été son conseiller diplomatique. Et si on part du principe que les 23 années de Moussa Traoré ont laissé un goût amer aux Maliens, et qu'il fut chassé du pouvoir. Et d'ailleurs, rappelons-le, c'est la chute de Moussa Traoré qui permet l'instauration de la démocratie ici au Mali. Voilà. Mmh. Et Moussa Traoré s'en est relativement bien sorti, et on a même eu l'impression que les Maliens, une partie des Maliens, ont regretté la période Moussa Traoré. Ça en dit long sur l'échec des acteurs de la démocratie ici au Mali. Moussa Traoré avait un rôle de sage à Bamako ici, où les gens se rendaient à son domicile pour qu'il leur fasse des bénédictions. Vous voyez, hein? Donc la question c'est pas ce que Moussa Traoré fut, mais c'est ce que les acteurs de la démocratie ne furent pas. Voilà. Donc, être obligé de se retourner vers Moussa Traoré, ou encore de regretter la période de Moussa Traoré, ça en dit long sur l'échec de la démocratie malienne.
Niagale Bagayoko, un mot sur Moussa, voilà. Niagale Bagayoko, pardon, on a un mot peut-être sur cette figure effectivement de Moussa Traoré. Il y a presque une forme de nostalgie, c'est vrai, au Mali, c'est certain évidemment, mais une nostalgie de son mandat, alors que c'est quand même un président extrêmement dur.
C'est une nostalgie qu'on constate dans de nombreux pays du monde, hein, en disant « Oh, mais finalement, la dictature, ça n'était pas si mal. Ce n'est pas propre au Mali, malheureusement. » Mais effectivement, la question que cela pose, parce qu'en effet, hein, je suis tout à fait d'accord, et j'ai été témoin aussi de cette autorité morale qui était devenue Moussa Traoré, et sa mort après un coup d'État est une ironie de l'histoire, hein, puisqu'il a été consulté aussi juste après le 18 août. Donc effectivement, la question de cet héritage prétorien dont je parlais, cette nostalgie envers des hommes forts qui n'ont pas plus réussi que les civils se pose, mais surtout plus largement, on voit que la classe politique et également fonctionnaire ou militaire renvoie aussi à un cercle qui est relativement fermé et restreint aujourd'hui. Et l'un des enjeux qui se pose et qu'a mis sur le devant de la scène ces manifestations orchestrées par le M5 RFP est aussi la question de l'élargissement des acteurs qui sont partie prenante à la sphère politico-administrative qui gère le pays.
On était avec vous, Niagale Bagayoko, et vous, Boubacar Haïdara. Coup d'État au Mali, le jeu trouble des militaires. On va regarder le jeu trouble dans un autre pays, en l'occurrence le Soudan. En 2019, l'année dernière, le Soudan mettait en place un gouvernement de transition suite à une révolte populaire qui avait conduit à la chute d'Omar El-Béchir, resté pas mal lui aussi au pouvoir, hein, 30 ans. Et un an après donc sa mise en place, le gouvernement de transition a rempli un de ses objectifs en signant le 31 août dernier un accord de paix avec une partie des groupes rebelles. On va en parler tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous ne considérons pas cette signature initiale des protocoles comme une fin en soi, mais comme le début de l'engagement des parties à respecter et à mettre en œuvre l'accord dans la lettre et l'esprit.
Voilà donc Salva Kiir, le président du Sud-Soudan, qui s'exprimait le 31 août dernier suite à la signature de l'accord de paix entre les autorités de transition et l'alliance rebelle à Djouba. Est-ce que cet accord peut ramener la paix dans ce pays en proie à des violences entre l'État central et des groupes rebelles depuis de longues années? Quel bilan pour ce gouvernement de transition au Soudan? Bonjour Clément Dehaye.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, enseignant à Paris, un spécialiste du Soudan. 2003, je refais un tout petit peu d'histoire, mais 2003, il y a ce mouvement insurrectionnel qui se réveille du côté du Darfour, qui entraîne une riposte extrêmement brutale de la part des autorités de Khartoum. Le gouvernement soudanais évoque à l'époque un bilan de 10 000 morts, mais en réalité, les chiffres de l'ONU sont plutôt à 300 000 morts, sans compter le 2,7 millions de personnes déplacées. Et il se trouve que le 31 août dernier, après de longs mois de négociations et, accessoirement, la chute d'Omar El-Béchir, il y a cet accord de paix qui est paraphé entre le gouvernement de transition et les groupes rebelles. Quel regard vous portez sur tout cela? Est-ce que vous vous dites, ça y est, on est enfin sur le chemin de la paix, Clément Dehaye?
Alors, en effet, c'est une excellente première étape. C'était un des objectifs du gouvernement de transition dès sa prise de pouvoir. Ils ont annoncé que dans les 6 mois, il fallait des accords de paix. Ça a pris 1 an. Mais c'est une bonne première étape. Néanmoins, il faut noter que ces accords de paix ne concernent que 3 groupes armés rebelles, parmi les plus importants, mais pas nécessairement politiquement les plus centraux. Et donc, pour le Darfour, le mouvement qui a un peu initié la rébellion en 2003, le SLA Abdelwahid Nour, ne fait pas partie de ces accords de paix. Donc, ces accords sont en quelque sorte une bonne première étape, mais ne sont pas encore suffisants et ne remplissent pas les ambitions du gouvernement de transition encore actuellement.
Comment se fait-il que certains groupes refusent cet accord? En l'occurrence, une faction du mouvement de libération du Soudan et puis une aile du mouvement populaire de libération du Soudan Nord. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas?
Alors, raisons différentes, mais dans l'ensemble, c'est parce que ces accords sont avant tout des accords sécuritaires et de répartition du pouvoir, mais n'essayent pas de résoudre les problèmes structurels pour lesquels ces groupes ont pris les armes. Alors, il s'agit pour le SPLM Nord, donc qui est présent encore dans le fond du Sud et dans le Nil Bleu, qui est un mouvement historique qui est lié au Soudan du Sud, par exemple, de parler d'autodétermination des régions qu'il contrôle et de séparation de la religion et de l'État. Pour le SLA Nour, donc au Darfour, ce sera des questions qui sont plus autour des réfugiés et aux compensations liées à la guerre terrible dont vous avez parlé tout à l'heure.
Clément Dehaye, regardons un peu, on s'intéresse en particulier aujourd'hui à la place des militaires dans les processus de transition. Si on regarde l'organe aujourd'hui en charge de la transition au Soudan, c'est le Conseil souverain. Le Conseil souverain, il est formé de 6 civils et 5 militaires. Donc, du point de vue purement arithmétique, on a envie de se dire que le Conseil souverain, au fond, il est dans les mains des civils. Or, quand on entend la rue, en tout cas une partie de la rue, on nous dit que, en réalité, cette transition, elle est encore assez largement dans les mains des militaires et qu'il faut maintenant accélérer ce transfert du pouvoir. Comment comprendre la situation exacte de Clément Dehaye?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que ce conseil de transition, c'est en effet 6 civils et 5 militaires, mais un des civils a été choisi conjointement. pour une question d'équilibre des pouvoirs. Donc en fait, en termes d'équilibre des pouvoirs, on est plus sur 50-50, puisqu'il y a une personnalité neutre entre les deux. Également, dans le gouvernement de transition, plusieurs militaires détiennent encore des postes importants, comme le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. À partir de ce moment-là, l'armée a encore un pouvoir pas forcément de nuisance, mais en tout cas de ralentissement d'un certain nombre de réformes, notamment de lutte contre la corruption, notamment de remplacement de hauts fonctionnaires, et ralentit en partie ce processus. Alors, c'est en partie vrai, mais il faut savoir que, y compris au sein de l'institution armée, il y a plusieurs acteurs et que ces acteurs ont des jeux qui sont différents. Donc en fait, les manifestations qui ont eu lieu pour accélérer la transition étaient en fait des manifestations à la fois de soutien au gouvernement civil dans cette querelle avec l'armée et en même temps une expression d'impatience pour les transformations promises par le gouvernement.
Clément Dehay, on voit bien qu'il y a ces inquiétudes quant à la réelle intention des militaires de lâcher le pouvoir, en tout cas d'organiser une véritable transition vers les civils. Mais au fond, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi les militaires au Soudan continuent de tenir ce processus ?
Il y a plusieurs choses bloquent. La première, c'est la question des crimes de guerre. Une partie des officiers de l'armée ont peur que s'ils lâchent le pouvoir, ils soient jugés pour les crimes qui ont été commis au Darfour et dans la guerre au Kordofan et dans le Nil Bleu. C'est la première raison. La deuxième raison est une raison aussi économique, puisque l'armée a énormément d'intérêts économiques divers, de nombreuses entreprises. Et il y a aujourd'hui une lutte de pouvoir entre le gouvernement civil et les militaires pour s'adjuger le contrôle de ces entreprises. Donc il y a à la fois une question de pouvoir économique et militaire et également la peur de devoir rendre des comptes sur les crimes de guerre. Sachant que cette transition est également sous le signe de la lutte contre la corruption et que de nombreux militaires sont mis en accusation en ce moment sur la place publique par des civils et que l'armée essaye de se défendre et de défendre une partie de ses prérogatives historiques. Il faut savoir quand même que historiquement, l'armée a occupé une place politique quasiment continue depuis l'indépendance. Donc les militaires ont aussi du mal à lâcher de fait de cette histoire riche.
Mais donc ils ont raison de craindre des représailles d'une justice transitionnelle. Il y a le plan économique que vous avez dit, donc au Soudan, il faut quand même avoir en tête que la majeure partie du budget en réalité passe dans les questions sécuritaires. Donc en réalité, l'économie c'est essentiellement ça tourne autour des questions sécuritaires. Mais sur la question de la justice, ils ont raison de s'inquiéter ?
Alors le gouvernement donne des gages, mais oui, ils ont en partie raison, parce qu'un certain nombre de hauts responsables sont pointés du doigt par les groupes rebelles, et c'est un des enjeux également de ces accords de paix. Et donc, pour l'instant, l'idée serait d'aller vers une amnistie et d'une justice transitionnelle qui ne mette pas en cause personnellement les auteurs des crimes, mais les responsables politiques comme Omar El-Béchir et un certain nombre de personnes qui sont déjà poursuivies par la CPI.
Mais qui est toujours dans son pays, hein, Omar El-Béchir.
Omar El-Béchir qui est toujours au Soudan et qui est jugé actuellement seulement pour corruption et pas pour des crimes de guerre. Mais il y a cette tension, une demande de la population, notamment dans les camps de réfugiés. Vous avez parlé de plus de 2 millions de réfugiés. C'est une population importante qui, elle, demande des comptes plus forts. Et donc il y a un équilibre qui se crée autour de ça. Et cette peur. Après, est-elle fondée ou pas ? C'est un petit peu tôt pour le dire. Néanmoins, on entend quand même un certain nombre de partis politiques qui demandent des jugements pour un certain nombre d'auteurs de crimes de guerre.
Encore un tout petit point, Clément Dehay, puisque la semaine dernière, il y a eu une autre actualité avec le Soudan qui a annoncé avoir réuni les montants des indemnités exigées par Washington pour les familles de victimes américaines tuées dans les attentats de 98 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie qui, elles, avaient fait plus de 200 morts. Ce versement, c'était un préalable au retrait du pays de la liste noire dressée par Washington. Est-ce que ça, c'est une étape importante dans la normalisation entre les deux pays? On s'en doute, mais plus que ça, pour conforter le processus de transition qui est en cours?
Alors oui, c'était une étape importante, notamment pour les questions économiques, puisque tant que le pays est sur cette liste des États terroristes, une partie des accords et des aides potentielles, notamment du FMI et de la Banque mondiale, étaient bloquées. Et depuis qu'il y a eu l'annonce de ce versement, le FMI s'est réuni et a autorisé, là, il y a quelques jours, un plan d'aide pour le Soudan pour le placer dans les pays les plus pauvres, ce qui va donner une annulation d'une partie de la dette. Et donc, en fait, cette question, elle était très importante économiquement, puisque l'inflation et les prix d'importation ont cessé d'augmenter ces dernières années. Il y a besoin d'argent frais pour le pays, pour pouvoir, y compris, nourrir la population, où là, il y a de réelles difficultés depuis la Révolution. Et donc, en fait, cette liste de terroristes des États-Unis a bloqué économiquement une partie de la transition. Et donc, une partie de l'espoir, c'est que maintenant que cela va être fait, le Soudan va pouvoir engager un certain nombre de réformes économiques grâce à l'argent international.
Peut-être un tout dernier mot, faire réagir Niagale Bagayoko et faire un jeu de miroir du coup avec le Mali, parce que on parlait tout à l'heure des sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali, mais pour reconstruire, pour faire la transition, il faut aussi de l'argent du côté du Mali. Est-ce qu'il y a des candidats pour donner de l'argent au Mali pour soutenir tout cela? Est-ce que la France, par exemple, s'est dite volontaire pour essayer d'accompagner financièrement ce processus de transition politique?
Pour l'instant, à l'exception des États-Unis, en raison de leur législation très stricte, les programmes de coopération avec le Mali n'ont pas été suspendus, ni par la France, ni par la plupart des autres acteurs internationaux. Et il y a un nombre extrêmement important d'acteurs engagés auprès du Mali. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit question de retirer ce soutien. Maintenant, la question des conditionnalités...
Ce qui pourrait, pardon, constituer un levier de pression quand ça se passe pas bien.
Absolument, et c'est exactement ce que j'allais vous dire. La question des conditionnalités pour, en effet, que cette transition se fasse dans un cadre démocratique sera, à mon avis, absolument essentielle.
Avec ce très beau morceau, Mama de Fatoumata Diawara, qu'on se quitte. Merci infiniment à Clément Dehé qui est avec nous par téléphone, à Aboubakar Haïdara qui est avec nous en direct du Mali. Je rappelle que vous êtes chercheur au LAM de Sciences Po Bordeaux, mais aussi chargé de cours à l'Université de Ségou. Et un grand merci à vous, Bagayoko, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes vous présidente de l'African Security Sector Network. Un grand merci à vous. On va poursuivre demain, évidemment, nos pérégrinations africaines, poursuivre cette aventure africaine cette semaine. Mais d'abord, c'est le tour du monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Octobre 2015, une étudiante prénommée Olivia, née aux États-Unis de parents émigrés du Mexique, écrivit une lettre à la doyenne de son université, le Claremont McKenna College de Los Angeles.
Oui, elle s'y disait triste de constater que les Latinos étaient nombreux parmi les personnels subalternes de son université, comme jardiniers ou concierges, mais rares parmi l'encadrement administratif et surtout dans le corps enseignant. Elle-même avait l'impression d'être en quelque sorte surnuméraire, acceptée pour remplir le quota de latinos exigé par la politique de diversification des admissions de l'université. Alors la doyenne, Mary Spellman, lui répondit, je cite, « Merci de m'avoir écrit. Nous avons beaucoup à faire en tant qu'université, en tant que collectivité. Voudriez-vous discuter avec moi un de ces jours de ces sujets? Ils sont importants à mes yeux et l'équipe éducative et moi-même, nous travaillons à mieux servir les étudiants, spécialement ceux qui ne rentrent pas dans le moule du Claremont McKenna. J'adorerais en parler davantage avec vous, la doyenne Spellman. » Que croyez-vous qu'il arriva? Olivia se sentit insultée par l'évocation d'un moule à laquelle elle ne semblait pas correspondre. Elle ne répondit pas à la lettre de Madame Spellman, mais plusieurs semaines après, elle entama sur Facebook une campagne contre la doyenne. Une copie de la lettre, à ses yeux insultante, était accompagnée du commentaire « Je ne rentre donc pas dans le moule de notre chère Claremont McKenna, sentez-vous libre de partager ». Tout le campus fut bientôt en émoi. Des manifestations furent organisées en soutien à Olivia, deux étudiants entamèrent une grève de la faim, les cours furent perturbés, on réclamait le renvoi de la doyenne, insensible à la souffrance de l'étudiante. Mrs. Spellman avait pourtant fait preuve d'un désir sincère d'aider l'étudiante à se sentir plus à l'aise dans l'université, mais Olivia, comme la majorité de ses condisciples, avait succombé à plusieurs des biais que le psychologue cognitif Jonathan Haidt, dans un livre dont je vais vous parler cette semaine, énumère. Filtrage négatif. C'est le fait de sélectionner les faits de manière à ne conserver que ceux qui vont dans le sens de la perception catastrophique d'une situation. Blaming, difficile à traduire en français. Rendre une personne en particulier responsable de nos sentiments négatifs. Et surtout, emotional reasoning. Raisonner de manière émotionnelle, un terme forgé par Aaron Berk pour désigner le fait de confondre avec la réalité les sentiments qu'un fait a produit en nous. Quelque chose d'étrange est en train de se passer dans les collèges et les universités américaines. Un mouvement se lève, sans direction, et conduit largement par des étudiants pour nettoyer les campus des mots, des idées et des sujets qui pourraient causer un malaise, discomfort ou offensé. C'est ce qu'écrivait ce psychologue, donc Jonathan Haidt, dans un article coécrit avec Greg Lukianoff, paru en septembre 2015 dans la revue The Atlantic. Greg Lukianoff est le président d'une ONG qui défend les libertés académiques, la Foundation for Individual Rights in Education. Cet article a été le plus consulté depuis la création de The Atlantic, créé en 1857.
L'écho brise qu'a rencontré cet article témoigne de l'ampleur du malaise que provoquent dans le corps enseignant les exigences croissantes des étudiants du supérieur aux États-Unis en matière de protection.
Oui, ces auteurs, ils sont d'ailleurs revenu dans un livre qui est devenu un best-seller, The Coddling of the American Mind, le dorlotage, si vous voulez, de l'esprit américain. Traditionnellement, l'enseignement en Occident était censé développer l'esprit critique, encourager la remise en cause des idées reçues. C'est devenu plus que jamais nécessaire à l'ère de Donald Trump et des fake news. Mais que faire lorsque les étudiants affirment se sentir personnellement affecté, perturbé, voire agressé par des opinions, des idées, des livres, des faits qui ne cadrent pas avec leur vision du monde. C'est particulièrement vrai alors que les clivages politiques d'autrefois ont cédé la place à la politique des identités. Une partie des croyances que nous croyons personnelles proviennent en réalité d'allégeance à des groupes d'appartenance. À l'heure des réseaux sociaux, nous partageons, nous propageons, nous défendons les valeurs et les idées de ces groupements d'appartenance. Dans ce contexte, faire preuve d'esprit critique, c'est manquer de loyauté envers le groupe d'appartenence. Et c'est pourquoi Orwell, George Orwell, devrait plus que jamais nous servir de boussole. Lui qui enseignait à ne jamais manquer à la vérité, même si la révéler était susceptible de nuire à notre propre camp. Il a écrit que lorsqu'il a essayé de publier, longtemps en vain d'ailleurs, le fameux roman « La ferme des animaux », qui était une critique féroce du communisme soviétique, ses amis de gauche, et pas seulement les communistes, ont tenté de l'en dissuader. Il écrit, en 1945, « On vous avertissait, tant publiquement qu'en privé, que cela ne se faisait pas, que ce que vous disiez était peut-être vrai, mais que c'était inopportun et surtout que cela faisait le jeu de tel ou tel intérêt réactionnaire. » Mais pouvait-il imaginer, Orwell, le niveau extravagant de censure qui règne actuellement sur les campus anglo-saxons et qui devrait bien nous inquiéter nous-mêmes puisque nous finissons bien souvent par nous aligner sur les modes intellectuels venus d'outre-Atlantique. Et demain, je vous reparlerai du livre qu'ont publié Haidt et Lukianoff et suite à leur fameux article paru dans The Atlantic.
La suite demain, donc, Brice Couturier. Merci beaucoup.